des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission spéciale puisque le week-end France Culture à New York continue en partenariat avec le Théâtre de la Ville et Tandem Culturel Paris-New York. Nous allons donc continuer à déambuler avec vous dans cette ville ô combien littéraire qui a stimulé ou étourdi tant d'écrivains. Tenez, rien que celle-ci de Simone de Beauvoir, il y a quelque chose dans l'air de New York qui rend le sommeil inutile. Même insomnie d'ailleurs chez Albert Camus, écoutez-le bien. Parfois, au-delà des gratte-ciel, le cri d'un remorqueur vous surprend dans votre insomnie et vous vous souvenez que ce désert de fer et de ciment est une île. Dans cette île qui paraît parfois tellement indépendante qu'Henry Ford disait que c'était un pays différent, qui devrait peut-être avoir un gouvernement à part parce que les habitants, notamment, ne savent simplement pas à quoi ressemble le reste des États-Unis, eh bien nous nous promènerons au cours de cette heure dans New York. Nous ne nous promènerons pas seuls puisque nous serons guidés par deux écrivains américains qui ne sont pas d'ailleurs new-yorkais ou peut-être seulement d'adoption. Il s'agit de Ben Lerner et de Joyce Maynard. Bonjour Joyce Maynard.
Bonjour, enchantée.
Bonjour Ben Lerner.
Bonjour.
Nous ne nous contenterons pas de nous y promener hein, dans ce New York, les yeux grands ouverts, insomniaque peut-être aussi. D'ailleurs, il est un peu tôt peut-être pour parler d'insomnie puisqu'il est 17h. Nous allons en creuser la patte romanesque puisque si New York rend le sommeil inutile, c'est peut-être aussi parce que cette ville produit des romans qui, eux, nous empêchent de fermer les yeux tant ils nous excitent. Et c'est le cas avec votre roman Ben Lerner, le titre... Alors comment vous dites en anglais, en américain, comment vous prononcez ?
10-04.
10-04.
That's right.
Je dirais en français 10-04, c'est une référence à 10h04, l'heure précise où dans Retour vers le futur, le film de Robert Zemeckis, la pendule est remise à l'heure du héros, mais 30 ans auparavant. Et cela va lui permettre de découvrir des vies antérieures à la sienne, dont il sait que s'il intervient sur elle, il modifiera le cours non seulement de ses vies, mais aussi de la sienne. Cette image presque mythologique de cette pendule, Ben Lerner, vous ne vous en servez pas pour devenir une sorte de Marty McFly de la littérature, mais pour explorer comment un écrivain peut être modifié par et modifier à son tour l'histoire qui est la sienne et le monde qui est le sien, et pour dresser au fil des pages de ce roman un véritable portrait de New York. Je rappelle que vous êtes romancier, mais avant tout poète, que vous enseignez aussi la littérature à Brooklyn College. Vous êtes né en 1979 au Kansas, donc pas du tout new-yorkais originellement, Ben Lerner.
I don't know. New York is a city full of people who aren't from New York.
New York, c'est une ville qui attire des gens qui ne sont pas de New York. Peut-être que Paris, c'est la même chose, je ne sais pas.
But also, even though I grew up in Kansas,
bien que j'ai grandi au Kansas, ma mère est originaire de Brooklyn. Donc c'est une ville quelque peu natale pour moi.
But for almost any writer I know, New York is a place of origin, whether or not you're born there.
New York est un lieu d'origine pour tous les écrivains que je connais, qu'on y soit né ou non.
It's a collection of cultural energies you have to reckon with.
C'est un rassemblement d'énergie culturelle. Et il faut quand même s'en rendre compte.
C'est bien un rassemblement d'énergie culturelle, Joyce Maynard, cette expression, non ? Ça vous plaît ?
Oh, absolutely. I also grew up far from New York.
Moi aussi, j'ai grandi loin de New York, loin sur le plan culturel. J'ai grandi dans le New Hampshire, dans une petite bourgade à la campagne. J'ai toujours été attiré par New York pour les raisons qu'évoque Ben, parce que c'était justement pas le New Hampshire. Et je me suis rendu à New York dès que possible.
New York,
pour moi, ça n'a jamais été un endroit pour écrire. C'est un lieu qui inspire le travail que je fais ailleurs.
Parce que c'est difficile d'écrire justement à New York, pas seulement d'être inspiré, mais d'écrire, de se mettre à la table de travail et d'écrire au milieu de cette forêt de pierre.
cette forêt de pierre, les édifices.
Oui. Like a stone jungle.
Oui, oui, oui. Sometimes I have made some very odd mistakes this week in Paris.
All week long, I spoke toute la semaine ici à Paris. Je disais que les gens se levaient le matin, mais en réalité, au lieu de dire lever, je disais enlever.
Enlever, oui.
C'est pas mal. Voilà. On voit qu'on est avec une romancière.
Now I forget the question.
Quelle était la question?
J'allais parler en anglais.
Ah bah, je ne vais pas traduire.
Je vous en prie. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter quand même Xavier Combe, qui va interpréter cette session new-yorkaise, oui. Cette naissance new-yorkaise, j'allais dire, du temps des écrivains. Non, je vous demandais, Joyce Maynard, vous disiez, en fait, je suis inspiré par cette ville, mais quand il s'agit d'écrire, en fait, il faut que j'aille ailleurs. Et je me demandais pourquoi.
There's too much energy for me.
I get too excited. When I get to New York City, when my plane lands, or my bus, or my car pulls up, ou lorsque j'arrive en voiture, eh bien, mon rythme cardiaque s'accélère.
Je vois Ben Lerner qui hoche la tête en vous entendant. Vous aussi, vous êtes excité, trop excité par New York. Pourtant, vous écrivez à Brooklyn. Ce livre, il est born in Brooklyn and written in Brooklyn.
I like Joyce. I think it's New York is always a state of exception.
Tout comme Joyce, je pense que New York c'est un état, une ville-état d'excitation. Mais il faut travailler à l'encontre du bruit de la ville et il faut produire de l'ordre là où c'est le désordre qui règne. Pour l'écrivain, c'est difficile. Il faut équilibrer le bruit et le silence. S'il y a trop de silence, c'est mon bruit interne qui me gêne. Si j'arrive à me distancier suffisamment de la ville, j'arrive à un bon niveau d'équilibre. Et à ce moment-là, je peux écrire.
Et donc, quand vous êtes à Brooklyn, est-ce que vous considérez que vous êtes un peu éloigné de la ville? Est-ce que New York reste Manhattan quand même? Ou est-ce que Brooklyn est en train de prendre le pas sur Manhattan dans l'imaginaire new-yorkais?
I think it's changed, you know, when my mom grew up in
Brooklyn. Les choses ont évolué lorsque ma mère était enfant à Brooklyn. Tout le monde parlait de Manhattan comme étant un pays éloigné. On n'était pas vraiment dans la ville. On était à Brooklyn aujourd'hui. Brooklyn, c'est une destination en soi. Manhattan, c'est différent. C'est la verticalité qui règne à Manhattan. Mais il y a une personnalité collective à New York. Et moi, ce que je préfère, c'est le pont de Brooklyn, le pont qui sépare les différents district de New York.
C'est le pont de Brooklyn sur la couverture des règles d'usage de
Joyce Maynard. The Brooklyn Bridge is on the cover of this book.
Voilà.
Oui, ouais, c'est en effet le pont de Brooklyn qu'on voit sur la couverture de mon roman.
My story was inspired by
a series of days par une série de journées que j'ai passées à New York. Une série de journées qui ont changé ma vie.
Required of my characters
et par conséquent, mes personnages et moi, nous avons dû fuir New York. Je vous parle évidemment du 11 septembre.
Alors justement, Joyce Maynard, vous aviez 18 ans quand vous avez décidé de vivre avec J.D. Salinger, l'auteur de L'Attrape-cœur, séduit par une photographie de vous en post-adolescence. Adolescente en une du New York Times Magazine. Il vous écrit une lettre d'où naît une correspondance qui débouchera sur votre rencontre et une histoire dont vous avez donné le récit dans « Et devant moi, le monde », paru il y a 22 ans aux États-Unis et en français en 2011. Pas un livre sur lui, mais un livre sur moi, aviez-vous alors, joliment déclaré. Vous avez publié plusieurs livres depuis, dont le très beau « Long Week-end », et aujourd'hui, vous publiez « Les règles d'usage », avec donc « Le pont de Brooklyn » en couverture, c'est aux éditions Philippe Ray. Et ce livre s'attache au sort de Wendy, 13 ans, qui vit à Brooklyn et qui, le 11 septembre 2001, ne reverra jamais sa mère partie travailler. Plus aucune règle d'usage dans la vie de Wendy, qui quitte New York pour la Californie tout en y gardant la tête et les rêves avant de revenir peut-être à la maison, comme elle dit. Vous le disiez tout à l'heure, en fait, on écrit d'autant mieux sur New York que l'on s'y arrache.
Pour moi, oui, partout.
As you said,
oui,
yeah.
Pour tous.
It's better when you. When you go away,
this story in particular was well, I will tell you, it was inspired by a trip that I made to New York.
Un voyage que j'ai fait à New York.
In the fall of 2001, to visit the older of my two sons.
Je voulais rendre visite à mon fils aîné qui était étudiant à l'université à New York. Il était question que je reste quelques jours. Je venais de terminer la rédaction d'un roman entièrement différent.
When I walked out of
breakfast and après le petit déjeuner, donc, j'ai été informé comme des millions de personnes dans le monde. Je n'ai pas quitté New York pendant les jours qui ont suivi. En l'espace de quelques heures, j'ai compris que le roman que je venais de terminer ne serait jamais fini. En effet, mon travail résulte toujours de mes obsessions. Et les lieux de la plus grande discordance de ma vie. Et donc, c'est cet événement du 11 septembre qui a créé cela. Je savais que, d'une certaine façon, il fallait que j'intègre les émotions et le choc de cette expérience pour transformer cela, comme le fait l'artiste, en une œuvre. Mais il n'est pas possible de raconter l'histoire de 3000 victimes. Par conséquent, je me suis attaché à un point d'entrée, un petit prisme me permettant d'explorer la chose. Pas tellement l'expérience du terrorisme, moi je n'écris pas sur le terrorisme. Je suis davantage porté vers l'intimité, la perte, la tragédie, la survie face à une telle expérience. Et lorsque je me suis lancé dans cette histoire, je ne savais pas quelle était la réponse. Je ne savais pas répondre à la question « Comment survivre ?» Mais j'ai cherché un personnage. Ce personnage, je l'ai trouvé en l'espèce avec cette jeune fille.
On parlait du terrorisme, là, même si Joyce Maynard précisait qu'elle n'écrivait pas sur le terrorisme. Ben Lerner, les Français connaissent votre premier roman au départ d'Atocha. Atocha, c'est la gare de Madrid qui a été frappée par les attentats. Ce livre se passait précisément en Espagne et se terminait après les attentats islamistes du 11 mars en gare donc d'Atocha. Il avait remporté à l'époque le Believer Book Award en 2012. Et ce livre-là, donc 10-04, qui a reçu le prix Terry Southern de la Paris Review, paraît donc, c'est votre deuxième livre. Pourquoi avoir attendu finalement le second roman avant d'oser parler à ce point de New York, d'en dresser le portrait? Pourquoi avoir attendu le deuxième roman?
Je ne sais pas vraiment. Il fallait que je vive un petit peu plus à New York pour transformer le contexte de la ville sous forme littéraire. Je viens à New York dans ma vie, mais depuis quelques années, je sens plus de vulnérabilité en ville.
En effet,
il y a la réalité politique qui nous frappe tous les six mois. Il y a l'excès du capitalisme qui ne fait que creuser les inégalités. Et j'ai trouvé une histoire. C'est l'histoire d'un narrateur qui s'imagine être père dans une ville où les incertitudes vont croissant. Mais je ne pouvais pas écrire ce livre avant de me sentir plongé dans cette ville qui faisait face à cette nouvelle vulnérabilité.
Avant de parler de New York, je voudrais avoir, puisque le principe est un tandem entre Paris et New York, le principe de cet événement donc, auquel s'associe France Culture et le Théâtre de la Ville, je voudrais avoir votre ressenti sur Paris, cette ville dans laquelle vous venez d'arriver très récemment et qui a été meurtrie aussi par des attentats. Mais même en dehors de la question de ces attentats, qu'est-ce qu'elle représente encore, cette ville, Paris, pour les écrivains américains que vous êtes, Joyce Maynard?
Avant tout, lorsque je viens en France, je suis toujours frappé par la passion qui anime les lecteurs français envers les livres. C'est bien plus vrai que dans mon propre pays. Du reste, je sens que je suis mieux lu et mieux comprise ici en France que chez moi. Ça, c'est une joie, sans aucun doute. Lorsque je viens à Paris en tant qu'américaine, j'ai la possibilité de prendre du recul par rapport à la culture à laquelle je n'appartiens pas. Je l'observe. Je ne pourrais pas me mettre dans la peau d'une Française pour écrire. Ben nous dit qu'il faut vivre à New York pour s'exprimer en tant que New-Yorkais. Je comprends très bien ce point de vue. Mais lorsque l'on connaît une autre culture, eh bien, on connaît sa propre culture mieux parce que l'on reconnaît les aspects de la vie qui ne sont pas universels. Il y a tant d'Américains qui pensent que la vie aux États-Unis, c'est comme partout ailleurs, mais en réalité, même les États-Unis sont un pays d'une très grande diversité. Mais quand je viens à Paris, ça me rappelle tous les éléments qu'il ne faut pas prendre pour acquis. Nous, nous vivons dans un petit endroit bien particulier. Donc, tout cela pour dire que ça élargit la compréhension de ce qu'est qu'être humain.
On va continuer avec vous, Ben Lerner. Je voudrais juste, avant, lire un extrait de vos deux livres, Joyce Maynard et Ben Lerner. Je commence par Ben Lerner. J'ai pensé à Whitman qui embrassait du regard l'East River, tard dans la nuit, avant la construction du pont, avant l'électrification de la ville, croyant regarder par-delà le temps, se vidant de lui-même afin de pouvoir être rempli par les lecteurs à venir. J'ai pris au mot ses invitations répétées à correspondre, même si, comme correspondant, j'étais bien trivial. J'imaginais que les lumières invisibles n'étaient pas que les reflets des feux et des phares dans le désert, mais aussi des phares de la 10e avenue et l'éclat vif et blanc des cierges magiques au magnésium des enfants du jardin communautaire de Boerum Hill et une petite pluie d'étincelles sur un escalier de secours de l'East Village ou l'éclairage au gaz de Brooklyn Heights en 1912 ou 1883 ou les yeux luisants d'un animal qui s'avance dans le noir, les feux arrière rubis disparaissant au détour d'un virage de montagne dans un roman situé en Espagne. Voilà, c'est un extrait de 10-04, hein, on dit, voilà, qui paraît aux éditions de l'Olivier, et Joyce Maynard aussi, comme un écho. Wendy longea un autre bloc, elle entendit sortant d'une fenêtre quelque part dans les hauteurs la même chanson de Madonna qu'on diffusait partout. D'un autre endroit venait l'hymne national, une sirène retentit, elle tourna au carrefour suivant. Au début, elle ne comprenait pas ce qu'était cette forme qui griffait le ciel nocturne dans la lumière bleutée des projecteurs. Ça ressemblait à un doigt osseux géant, montrant la lune, une grue peut-être, genre le plus grand pied de maïs d'un champ moissonné qu'on a oublié de couper. Et maintenant, il était tout desséché et racourni. Soudain, elle reconnut cette forme. Évidemment, ce sont les ruines du World Trade Center. Je voudrais vous poser, avant de plonger dans chacun de vos textes, une question à tous les deux. Quand on se met, quand on ose enfin écrire sur New York et qu'on regarde combien cette ville a été arpentée par des écrivains mythiques, est-ce que ça effraie? Est-ce qu'on se dit, il faut que j'évite un certain nombre d'écueils, étant donné ceux qui m'ont précédé par l'écriture dans cette ville?
Oh, it would be a great mistake to be intimidated.
Ce serait une erreur énorme que d'être intimidé par l'histoire littéraire de New York. Je n'écrirais pas un seul mot si je pensais à tous les mots qui avaient déjà été proférés ou écrits sur New York. Tout ce que je peux faire, c'est apporter ma propre contribution. Personne n'a été moi-même à propos de New York, si je puis dire.
Ben Lerner.
Yeah, I think that's a nice way to put it.
Oui, c'est bien dit par Joyce Maynard. New York, c'est une ville d'histoire au pluriel et aucune personne ne serait suffisamment arrogante pour se croire capable de parler de tout en même temps. Cette ville est tellement prenante qu'on se rend compte qu'on est une petite voix qui contribue à la multitude de voix. Si on pense à tous les prédécesseurs, bien évidemment, là, on baisse les bras.
On va donc poursuivre avec votre contribution, hein, selon la belle expression de Joyce Maynard, Contribution to New York, avec vous, Ben Lerner. Ça s'appelle 10-04, c'est publié aux éditions de l'Olivier, c'est traduit de l'anglais par Yakuta Alikavazovic. Mais avant, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Nina Simone, Who Knows Where the Time Goes. Ah voilà, et ça réjouit Joyce Maynard. Voilà.
Across the morning sky, all the birds are leaving. How can they know when it's time to go? Thank you. before the winter fire will still be dear. I do not count the time. Who knows where the time goes? Who knows where the time goes? And I don't see the end of the time. Sad, deserted shore. Your fickle friends are leaving.
Nina Simone, Who Knows Where the Time Goes? C'est le choix de Ben Lerner. Il publie son roman, son nouveau roman, c'est le deuxième.
J'ai décidé que c'est mon
Joyce
choix
Ménard.
Aussi.
Ah, vous voulez prendre le choix de... C'est Joyce Ménard qui veut prendre le choix musical de Ben Lerner. Est-ce que vous protestez, Ben Lerner, ou vous laissez Joyce Ménard s'emparer de ce choix? Voilà, Nina Simone peut se partager. Pourquoi ce choix musical, il est lié à 10-04, il est lié à New York, il est lié...
Yeah, well, I mean, in addition to just being such a gorgeous song, this is very much a book about
chanson formidable d'une part, et d'autre part, il s'agit de toutes les différentes formes de temps que l'on connaît. Le protagoniste du récit vient de faire l'objet d'un diagnostic, donc il vit sur un temps biologique. Il y a également une question de grossesse, donc il y a le temps de la grossesse, il y a la vulnérabilité de la ville face au temps, et on peut méditer sur la texture du temps qui passe, et on peut réfléchir à la façon dont notre imagination du futur détermine notre expérience du présent. Tout cela, on le retrouve dans la voix de Nina Simone et dans les petits grésillements de l'enregistrement.
Exactement, qui sont magnifiques. Alors, c'est un portrait de New York, c'est un portrait de Brooklyn, c'est un chant d'amour aussi à cette ville, ce roman, Ben Lerner. On y suit Ben dans sa pérégrination dans la ville, pérégrination spatiale, physique et mentale, à travers Brooklyn, à travers son corps, puisque vous l'avez rappelé, il y a eu un diagnostic, il est atteint d'une malformation cardiaque, et de sa psyché aussi, qui est elle aussi malformée d'une certaine façon, ou plutôt déformée par son métier d'écrivain. Cet écrivain, ce héros, c'est un auteur new-yorkais brillant, cultivé, écologiste, donc de Brooklyn. Ses mentors sont un couple de poètes renommés. Il est généreux, Ben, il se masturbe en cabine pour donner son sperme à l'une de ses meilleures amies. Il va et vient dans New York, de dîner en exposition, de parc en éditeur, avec Walt Whitman et quelques autres sous le bras. Il publie sa première nouvelle dans le New Yorker. Il travaille aussi pour une coopérative alimentaire, dont il décrit fort bien les grandeurs et les hypocrisies. Il décrit au fond tout ce qu'il voit, tout ce qu'il sent. Et vous avez cette phrase étonnante, Ben Lerner, le fait qu'il ne garderait aucun souvenir de ce qu'il observait, qu'il ne pourrait jamais le transcrire en quelque langage que ce soit, conférait une plénitude à l'ensemble, le rendait brièvement conforme à son essence, et il fut profondément ému de penser que l'expérience de la présence dépendait de cette oblitération. C'est étrange cette façon de décrire New York en disant qu'on ne peut pas la transcrire en quelque langage que ce soit. C'est une ville qui résiste à la description.
I think New York definitely exceeds description.
New York va au-delà de la description. Lorsque l'on regarde le profil urbain, tout cet espace bâti, eh bien, on voit trop d'histoires. Elles sont trop nombreuses. Il y a trop de différents temps qui se chevauchent les uns les autres. D'où ce caractère sublime New York excède toute possibilité de récit, mais c'est ce qui génère toute cette littérature sur la ville, évidemment.
Pourtant, j'ai l'impression que vous arrivez à le faire en une seule phrase. Ce sont dans les premières pages du livre. Ben est avec son agent littéraire. Ils sont en train de partager un repas. Et l'agent lui demande comment il compte développer l'histoire, pour laquelle elle lui a obtenu un avaloir à 6 chiffres. Et il dit... Je vais me projeter dans plusieurs avenirs possibles simultanément. Je m'appliquerai à passer de l'ironie à la sincérité dans une ville partie à volo, tel un aspirant Whitman de cette grille urbaine vulnérable. En une seule phrase, vous la qualifiez, New York, une ville partie à volo et une grille urbaine vulnérable. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le sens de ces deux descriptions, au fond ?
Yeah, well, the fantasy of Walt Whitman,
le fantasme de Walt Whitman, poète de Brooklyn, était de pouvoir se dissoudre, de créer un espace pour que tous les gens se rassemblent. Ainsi, lorsque Whitman dit « je », il parle en notre nom à tous, donc une espèce de fantasme composite du poète qu'il était. Et cette relation de l'individuel au multiple, c'est l'expérience que l'on a lorsqu'on est à New York. On se sent intensément vivant en tant qu'individu, mais une partie de cette intensité résulte de votre individualité qui se dissout dans le tissu urbain.
Par ailleurs,
je pense que New York est une ville qui évolue, qui est à volo, parce qu'il est de plus en plus difficile d'imaginer l'avenir de cette ville. Ça peut être toujours été le cas. Les excès sont trop excessifs, les vulnérabilités sont trop vulnérables. Mais cela ne fait qu'intensifier le pathos et on se sent intensément présent à New York.
Et l'image du poulpe qui se déploie dans ces premières pages, à la fois ils sont en train de se nourrir de petites têtes de poulpe dans ce restaurant new-yorkais, et puis quand il est à l'hôpital, quelques pages plus loin, le héros, il y a aussi un poulpe géant qui est peint sur le mur de la pièce. Je me suis demandé si c'était pas au fond la plus belle et la plus simple d'ailleurs des images pour parler d'une ville comme New York. On dit que les villes sont tentaculaires. Au fond, l'un des animaux les plus tentaculaires qui soit, c'est le poulpe que vous mangez, que l'auteur mange, comme pour s'incorporer la ville.
The octopus is a big metaphor in the book.
Oui, le poulpe, métaphore présente dans mon roman.
The first meal that the protagonist has is this octopus that's literally
le protagoniste, c'est ce poulpe qui a été massagé à mort, tellement massagé que sa tendreté est tellement décadente que c'en est délicieux. Et dans ce livre, j'essaye de prendre cette métaphore obscène pour la transformer en quelque chose de plus positif sur la conscience de la ville. Mes amis scientifiques m'expliquent que le poulpe a des neurones partout dans le corps. Donc il y a l'intelligence centrale, mais l'intelligence dans l'ensemble du corps.
Et ça devient une métaphore pour une sensate ville.
D'où la métaphore pour le tissu urbain de New York.
Exactement. Qu'est-ce qu'il a de si particulier littérairement, cinématographiquement, ce quartier qu'on appelle Brooklyn et dont on a l'impression qu'il est devenu de plus en plus à travers les séries télévisées, à travers la littérature, à travers le cinéma, le nouveau cœur de New York face à un Manhattan qui serait au fond solidifié, gentrifié, peut-être aussi à éviter parce qu'il a été le cœur frappé de la ville. Qu'a de particulier littérairement Brooklyn ?
Dans le temps, Brooklyn, c'était là où on allait parce que Manhattan n'était plus abordable du point de vue du prix de l'immobilier. Mais aujourd'hui, ce phénomène financier frappe Brooklyn aussi. Donc Brooklyn, il ne faut pas penser que c'est le lieu des artistes. Il ne faut pas idéaliser la chose comme cela parce que les artistes sont attirés par la ville, mais en fait, ils doivent partir pour des lieux plus abordables. Mais Brooklyn, c'est un vieux centre littéraire. Ça n'a rien de de nouveau. Il y a des modes plus anciennes. Whitman était un poète de Brooklyn, je vous l'ai dit.
Donc, Brooklyn
est important dans la littérature, notamment parce qu'à partir de Brooklyn, on peut vivre Manhattan. On ne voit pas Manhattan lorsqu'on est à Manhattan. De Brooklyn, on est un petit peu à distance de tout le Strass de Manhattan. Brooklyn fait partie de la ville de New York, au même titre que le Queens, par exemple, ou les autres districts. Mais la distance est suffisante entre Brooklyn et Manhattan pour que l'image de Manhattan soit suffisamment forte.
C'est-à-dire que pour un écrivain, c'est un point de vue, Brooklyn. Vous êtes d'accord, Joyce Maynard ? On écrit sur Brooklyn parce que c'est un point de vue littéraire sur Manhattan.
Well, in the story that I tell, I think Brooklyn serves a very different function.
Brooklyn represents a home. A une fonction différente. Brooklyn, c'est la maison. Ce n'est pas le Brooklyn des artistes qui étaient bobos. C'est au contraire le Brooklyn d'une famille. Et moi, je décrit la dévastation de la famille parce que mes personnages doivent quitter Brooklyn. De façon traditionnelle, on pense aux gens qui viennent à New York en venant d'ailleurs. New York est donc une destination. Mais dans l'histoire que je raconte, il s'agit d'une jeune adolescente qui n'a d'autre choix que de fuir le lieu qui devrait représenter la sécurité et la maison et qui a été éradiquée. Sa mère est décédée, elle vit avec son beau-père, mais pas son père biologique. Donc son demi-frère, et elle doit aller en Californie, qui est l'antithèse de Brooklyn. Et elle considère Brooklyn pas simplement du point de vue de Manhattan ou du pont, mais carrément de la côte ouest, l'autre côte. Elle idéalise cette maison qui était Brooklyn avant les dévastations. Et elle idéalise Brooklyn. Et sans tout révéler, je dirais qu'au bout du compte, elle y retournera. Mais évidemment, elle sera transformée. Et la fonction d'un récit profond est une fonction de transformation et c'est une sorte de roman de construction qu'est le mien. C'est le Brooklyn du parc, la cour de récréation, les moments de joie sur la promenade. Puis Brooklyn connaît l'effondrement des édifices. Je suis toujours optimiste, dit Joyce Maynard en français dans le texte. Par conséquent, la ville, ce profil, ces bâtiments vont changer et ça va être un nouveau domicile, une nouvelle maison pour une espèce de roman de construction.
Oui, un côté Bildungsroman, comme on disait avant, alors que j'ai l'impression, Ben Lerner, que votre roman est plutôt non pas un roman de la destruction, mais un roman de la dissolution dans la ville. Vous parliez de Walt Whitman, j'ai pensé moi plusieurs fois au tableau parisien dans le spleen de Paris, donc de Baudelaire, avec ses jardins publics, ses foires, ses fêtes foraines, ses fumoirs, les chantiers d'Haussmann, les boulevards éclairés au gaz. Tout à l'heure, le passage que j'ai lu, il y avait cet éclairage, cette électricité très présente et en même temps ressemblant aux yeux d'un animal dans la nuit. Vous le citez beaucoup, Baudelaire, vous parlez beaucoup d'ailleurs de correspondance. Quel est son rôle dans 10-04 ? Whitman, vous en avez parlé, mais Baudelaire est peut-être aussi Walter Benjamin, voilà, ce roman de la déambulation, ce roman de la dissolution.
Pour Benjamin, Baudelaire
représentait les contradictions du poète dans la ville moderne. Ce qui est formidable chez Baudelaire, c'est qu'il pense que le rythme de la ville doit produire une forme littéraire nouvelle, ou des formes littéraires nouvelles. Et à mes yeux, Baudelaire, c'est le point d'entrée de la compréhension du fait que le rythme de la ville doit entrer dans la forme littéraire. Et lorsqu'il y a de nouveaux rythmes urbains, il faut de nouvelles prosodies, de nouvelles façons d'exprimer les choses sous forme littéraire. Par ailleurs, Baudelaire était l'un des grands écrivains de l'absence ressentie. Benjamin, quant à lui, explique comment Baudelaire voit les étoiles comme une perte, parce qu'il y a donc ces lumières dont on a parlé dans les rues. Et ça, c'est une image formidable qui montre à quel point la ville est hantée par ce qu'elle n'est pas. Ce qui disparaît revient, et c'est la ville qui produit cela. Donc, à mes yeux, Baudelaire, c'est le poète de la ville, non pas simplement de par les descriptions qu'il en fait, mais de par cette notion de trafic, l'espace urbain, tout cela doit s'intégrer dans la forme du travail littéraire.
What up, New York City?
Un week-end à New York sur France Culture.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Alors, vous parliez, Ben Lerner, de Brooklyn comme un point de vue sur Manhattan. Le 11 septembre, il en est question aussi, on va en parler avec Joyce Maynard, mais évidemment, les tours sont présentes dans votre roman. Mais ce qui est très curieux, c'est que elles sont présentes dans la bouche d'un enfant hein, qui s'appelle Roberto, qui dit au personnage, Ben Lerner, au héros du livre, « Quand les gratte-ciels gèleront, ils vont s'effondrer comme le 11 septembre et écrabouiller tout le monde », déclara-t-il, comme toujours plein d'entrain, quoique plus bas que d'habitude. Et vous essayez, enfin, votre personnage essaie de dialoguer avec cet enfant, et là apparaît une autre image totalement fantasmatique qui est le chef des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur ougandais, Joseph Kony, puisque ce petit garçon, ça, Joseph Kony essaie de m'attraper dans mon cauchemar, le méchant en Afrique qu'on voit dans le film. En fait, c'est étonnant, on a l'impression que ce souvenir du 11 septembre est totalement brouillé, c'est un livre d'ailleurs aussi sur le brouillage, par d'autres fantasmes, en fait, que cet événement qui quand même a marqué l'histoire récente de New York est relégué dans le domaine des fantasmes, en fait. Voilà, il s'agit de tours qui vont s'écrouler si New York gèle, comme le 11 septembre. Ça n'apparaît pas réel, en fait, cet événement-là. Pourquoi avoir choisi de le traiter comme ça ?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont l'enfant essaye d'imaginer le monde. New York, c'est une ville d'immigrés. Voilà un gamin qui n'a pas de papier, il n'a pas de sécurité. Le 11 septembre, pour lui, c'est un moyen de parler de la fragilité de la ville et de la nature précaire de sa propre existence. Mais il s'agit également des médias. Ce gamin a vu en boucle les images des tours qui s'effondrent. Mais c'est un gamin qui est bombardé par un cycle perpétuel de différentes images. Donc il y a à New York des gens qui essayent de comprendre la réalité qui les submerge. Et moi je voulais voir comment cet enfant représente le planétaire, les images qui ressortent dans son esprit à partir du spectacle des médias pour qu'il comprenne mieux sa propre vie.
Il y a une autre phrase qui est intrigante et je voudrais interroger Joyce Maynard aussi là-dessus. C'est que vous écrivez, Ben Lerner, je me souviens, ce qui signifie que ça n'a jamais eu lieu. Il y a une sorte de négation du réel, du délire aussi, hein, présente aussi dans ce livre. Et ça me rappelait quelqu'un qui est venu dans cette émission, qui est Salman Rushdie, et qui nous expliquait qu'aujourd'hui, le monde n'était plus un monde non-fictionnel, pour ne pas dire réel, non-fictionnel, qu'il était devenu surréaliste. Et j'ai l'impression parfois, à vous lire tous les deux, dans la description que j'ai lue chez Joyce Maynard tout à l'heure, que en fait, avec ces... Vous décriviez hein, le reste de ces tours, Joyce Maynard, comme un doigt osseux, très jolie description, mais qu'il y a quand même une mise à distance de cet événement 11 septembre, et on vient d'en parler avec Ben Lerner. Cet événement du 11 septembre, un écrivain doit l'éloigner de la perception immédiate, absent et présent à la fois.
You know, I have to say that I don't really relate to these questions.
À vrai dire, ces questions, j'ai du mal à les aborder. Lorsque je me plonge dans un récit, je pense que je suis sérieuse en tant qu'écrivaine, mais je suis quelqu'un de terre à terre dans mon travail. Je commence par des personnages. Je ne me lance pas dans des concepts comme cela. Et cette conversation est quelque peu frustrante. Alors, Ben, je respecte tout à fait ce que vous dites, mais à bien des égards, je dirais que nous percevons un clivage entre nous. Mais il y a, on a une perception différente des écrivains et des écrivaines. Et le genre de questions que vous posez sont des questions d'hommes intellectuels. Moi, je vous parle de la maison et de la cuisine. Et beaucoup de gens vont penser que c'est une chose moindre, alors que c'est le point de départ, c'est là que l'on démarre. La famille, la maison, la cuisine. Et moi, je ne veux pas vous parler de grands thèmes, de grands concepts, de la réalité, du surréalisme, et ainsi de suite. Moi, je raconte l'histoire d'un personnage qui est transformé par des événements de la vie réelle et pas par des idées.
Je vais préciser, Joyce Milner, parce que j'ai pas l'impression de poser des questions de mal particulièrement, mais j'ai cité tout à l'heure cette description, on parlait de cet événement hein, du 11 septembre qui est au cœur hein, de votre livre, et la façon dont vous le décrivez avait précisément un côté surréaliste. Genre le plus grand pied de maïs d'un champ moissonné qu'on a oublié de couper, et maintenant il était tout desséché et racorni. C'est-à-dire que là, on glisse de la perception immédiate qui serait du métal, qui serait des ruines de métal dans la ville, au domaine végétal, à ce pied de maïs. Il y a un côté très intéressant dans cette description, mais aussi, précisément, comme chez Ben Lerner, aussi un côté surréaliste. Donc au fond, vous n'êtes pas si éloigné.
Moi, je dirais que mes personnages ont cette perception. Moi, je vois mon récit au travers des yeux de mes personnages. Le livre est écrit par la voix d'une adolescente de 13 ans. Donc, elle a ses références. Et évidemment, son référentiel est complètement différent de celui d'un Whitman ou d'un Baudelaire. Hein. Et c'est essentiel pour le vocabulaire littéraire, mais ses références à elle, c'est Madonna, les chansons de Madonna qu'elle entend à la radio, et puis des émissions de télé, et puis le journal d'Anne Frank qu'elle lit.
Pour elle, I think the title of my novel is Les règles du sage.
Les règles du sage, c'est donc le titre de mon roman. Wendy est une fille qui est habituée au monde tel qu'il est d'une façon, jusqu'à ce que les choses soient bouleversées, jusqu'à ce que produise une tragédie, jusqu'à notre perception de la signification de la vie soit remise en question. On ne peut plus se lever le matin, prendre le petit déjeuner et aller travailler, revenir chez soi, regarder la télé, aller se coucher. Non, tout ça, les règles d'usage ne s'appliquent plus.
Il y a une très belle expression de Joyce Maynard, tout avait changé. C'est une scène, donc le soir du 11 septembre, hein, donc elle a perdu le 11 septembre, elle appelle ça les tours, non pas le World Trade Center, mais les tours de sa mère, les tours de maman, hein. Tout avait changé, donc elle est en train de se brosser les dents, elle regarde son pyjama. Tout avait changé, mais pas ses vêtements. Au fond, c'est dans ce geste quotidien, comme celui de se brosser les dents, qu'elle atteste du fait qu'elle n'est pas dans une fiction, mais qu'elle est dans la réalité.
I think an event like this calls into question.
Un événement comme celui-là.
What remains? We know what left. We know what was lost. The question
is, ce qui reste. On sait ce qui a disparu. On sait ce qu'on a perdu. Mais que reste-t-il lorsque tout a été éradiqué en apparence? Que reste-t-il? Pour ma narratrice, il sera impossible de répondre à ces questions avant de quitter New York, quitter Brooklyn en l'occurrence, pour recréer un univers qui lui permettra de saisir son sens, non pas de bonheur, mais de bien-être, de survie, disons, voilà.
Alors, ce roman, Joyce Maynard, Les règles d'usage, on y entre par étapes. D'abord, on lit un extrait du journal d'Anne Frank, hein, qui date de juillet 44, qui est mis en exergue au début du roman. Puis on plonge dans une forme de prélude, qui nous donne à lire une bribe de la vie heureuse de la mère de Wendy. L'imaginaire est très présent, on voit Peter Pan. La jeune Janet, la mère de Wendy, rêve de danser pour des comédies musicales, qui ont toujours l'avantage de bien finir. Et puis, enfin, on découvre Wendy, l'héroïne de ce roman, au travers de laquelle va s'esquisser le portrait d'une véritable héroïne contemporaine, donc qui a perdu sa mère lors des attentats du 11 septembre. Cet événement va tellement peser dans l'existence de Wendy qu'elle va en fait errer entre deux villes. C'est ce que ce roman raconte en balançant deux villes. D'abord la Californie avec son père biologique et son père adoptif qui l'a élevé lui à New York. Deux villes qui vont rythmer sa vie. On a l'impression, vous parliez en début de cette émission, de New York comme de Brooklyn comme un home, comme vraiment le chez-soi, la maison. Il fallait dans le roman pour revenir à cette maison new-yorkaise, passer par la Californie, faire cette quête initiatique.
In the end, I think what I believe is that we must carry our home within ourselves.
Je suis convaincu que le chez-soi, il est en soi.
The title of my memoir is Et devant moi le monde. In English, it's called At Home in the World.
J'ai écrit un récit intitulé Et devant moi le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'un lieu particulier pour se sentir chez eux. J'en fais partie. Et lorsque j'ai vécu la dévastation au début de ma vie, je me suis retrouvé sans chez moi. L'histoire du voyage et de l'aventure de Wendy, sa quête d'une maison, et ce qu'elle apprend, c'est le fait que c'est là où elle réside, là où elle vit, c'est en elle-même. Dans mes nombreux voyages et en m'étant installé à New York, à San Francisco, au Guatemala ou dans le New Hampshire, moi j'ai compris que le chez-soi, eh bien, c'est en moi.
Vous rappeliez ce récit autobiographique Et devant moi le monde hein, que vous avez publié en 2011 et qui revenait hein, sur votre rencontre avec Salinger. À l'époque, Salinger, il vous rencontre parce qu'il voit une photo de vous à la une du New York Times Magazine où cette jeune fille que vous êtes, qui a 18 ans, raconte la vie dans les années 60. Si vous pouviez à nouveau obtenir cette une du New York Times Magazine, qu'est-ce que la femme que vous êtes devenue raconterait, non pas des années 60, mais justement de nos années 2010, aujourd'hui, après précisément ces catastrophes qui sont advenues le 11 septembre 2001 pour New York, mais qui frappent aujourd'hui le monde entier et Paris aussi.
You know, New York, the dream of New York has been a theme of my life.
Le rêve de New York, c'est le thème de ma vie.
When I was a little girl, that was my goal.
Quand j'étais petite fille, mon objectif, c'était de quitter ma bourgade pour aller à New York. La première fois que je suis arrivé à New York, c'était en 1964, bien avant la naissance de Ben Lerner, bien avant la naissance de Christophe Onodibio, et je suis allé au World's Fair, qui n'était pas à Manhattan, mais dans le Queens. Le World's Fair, en réalité, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais être à Manhattan, et j'ai toujours voulu aller à New York. Je voulais être écrivaine à New York. Et j'étais sur le point de devenir écrivaine de New York, donc une gamine du New Hampshire qui publie quelque chose qui a eu un bon succès.
Enlevé
pour aller vers le grand homme. Donc j'ai été invité à quitter le rêve que je m'étais fait de ma vie et de mes ambitions pour aller où ? Eh bien, dans le New Hampshire, un petit bled du New Hampshire pour vivre avec qui ? Un New-Yorkais qui avait abandonné New York et qui considérait New York comme une ville laide, corrompue et un lieu qu'il méprisait. Salinger était bien plus âgé, bien plus âgé, plus sage que moi, par conséquent.
C'était mal chose, pardonnez-moi le français, mais... So I allowed myself
ainsi,
to be transformed,
or I tried to. Really, une transformation. J'ai essayé, mais sans succès. Et lorsque je m'en suis rendu compte, eh bien, il m'a donné deux billets de $50 et il m'a dit, va-t'en, tu n'as pas de valeur. J'avais 19 ans et je l'ai cru. C'était un homme bien plus sage et bien plus important que moi. Et je me suis dit, ben, c'est vrai, je n'ai peut-être pas de valeur. Au bout du compte, je suis reparti pour New York. Il m'a fallu 4 ans, mais je me suis installé à New York et je suis devenu la chose qu'il méprisait le plus, écrivain à New York. Bon, New York maintenant est derrière moi, mais je ne quitterai jamais le monde de la sorte. Je ne penserai pas que l'écrivain ait besoin de se draper d'un immense mur à la Donald Trump pour ensuite faire valoir ses opinions pour les gens qui sont en dehors de l'enceinte qu'il s'est lui-même forgée.
Je voudrais qu'on termine sur deux passages, l'un de chez Joyce Maynard. Vous décrivez à nouveau hein, ce 11 septembre avec ces mots. Elle avait vu des images de la Lune ainsi qu'une partie du désert du Nevada où l'on testait les armes nucléaires, mais elle n'avait jamais rien vu d'aussi dévasté. Et puis chez Ben Lerner, il y a plusieurs passages chez vous, Ben Lerner, où vous parlez du complotisme. Vous parlez de l'accident de la navette spatiale Challenger, de cette théorie du complot autour de la mission Apollo. Il y a la tempête aussi qui est là en termes d'événements naturels. Et on a l'impression, au fond, à vous lire, que ce soit le 11 septembre comparé au paysage lunaire qui a été mis en question par les complotistes hein, qui disent qu'on n'est jamais allé sur la Lune et que tout ça a été tourné. On a l'impression, en fait, à lire ces deux livres sur New York et la Californie, pour vous, Joyce Maynard, qu'au fond, toujours, le réel new-yorkais est perturbé par des gens qui font de la fiction autour. Évidemment, l'écrivain fait de la fiction sur New York, vous en faites, Ben Lerner, mais aussi toutes ces thèses complotistes autour du 11 septembre qui écrivent d'autres fictions encore sur cette ville. Au fond, comment s'en sortir par la littérature avec cette ville qui se retrouve au centre de tant de fictions qui la bombardent en permanence?
Well, the conspiracy theories, I mean, I'm very sympathetic to what gives rise to conspiracy
Moi,
theories.
J'aime bien ce qui pousse au complot du théorie. Ça veut dire que la fiction que nous vivons n'a pas de sens. Donc, les théories du complot, à mes yeux, sont des tentatives désespérées de produire de la signification lorsque la signification n'est plus à notre disposition pour décrire l'expérience qui est la nôtre. Mais je crois qu'il y a la ville et il y a l'image que l'on s'en fait de façon individuelle ou collective. Et l'image de la ville, c'est toujours une fiction. Et elle est toujours sujette à révision, critique, modification. Joyce nous parlait de l'idée de New York. La ville est toujours dans l'ombre des histoires qu'on raconte à propos d'elle. Donc moi, je ne voudrais pas me soustraire à New York dans l'aspect qu'elle a de créer la fiction. Moi, je m'intéresse aux histoires qui sont les plus enrichissantes.
On échoue toujours, littérairement, quand on veut saisir New York, ou vous pensez que l'écrivain finit par gagner un peu sur cette ville ?
Moi, j'échoue lorsque j'essaie d'écrire, point final. Oui, l'échec fait partie de la pratique de l'écrivain. C'est précisément cette attitude qui me permet de dire. Donc, Beckett disait toujours, il faut échouer mieux, échouer de mieux en mieux. Donc, on essaye de trouver des façons dont l'échec peut quand même produire une expérience littéraire enrichissante. Il faudrait être dingue pour avoir l'ambition de raconter l'histoire de New York. Donc moi, mon échec s'est arrangé parmi les archives très vastes sur la question.
Merci beaucoup Ben Lerner. Vous publiez donc 10-04, c'est aux éditions de l'Olivier, c'est traduit par Yakuta Alikavazovic. Et merci à vous Joyce Maynard pour Les règles d'usage, publié aux éditions Philippe Ray. Et traduit par Isabelle Philippe. Merci à vous d'avoir participé à cette émission sur New York. Donc, vous savez que France Culture s'associe à ce week-end Paris-New York en partenariat avec le Théâtre de la Ville et Tandem Culturel Paris-New York. On va se quitter, Joyce Maynard, avec votre choix musical. Vous avez choisi Cat Stevens, How Very Young. Pourquoi ce choix ?
Because this is about my book is about the loss of innocence and the coming of age.
Mon livre porte sur la perte de l'innocence et la maturité.
When I was very young,
la chanson porte sur le même thème. J'étais très jeune quand j'ai entendu cette chanson pour la première fois et je l'aime beaucoup.
Merci Joyce Maynard.
You want him to last forever, you know he never will. You know he never will. And the patch
pictures make the goodbye harder still. Oh, very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will.
C'est l'heure de retrouver notre libraire de la semaine. Nous sommes cette semaine avec Christine Drugemand de la librairie La Belle Aventure. C'est à Poitiers, 12-15 rue des Grandes Écoles. Bonjour Christine.
Bonjour Christophe.
Alors votre conseil de lecture est le suivant, Le fils de mille hommes de Walter Hugo Maille, traduit du portugais par Daniel Schramm. C'est
oui.
Publié chez Métellier et c'est l'histoire d'un pêcheur qui décide à 40 ans de se construire une famille.
Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui fait le bilan au moment de ses 40 ans et qui assume, comme le dit Walter Hugo Maille, la tristesse de ne pas avoir d'enfant. Et à partir de là, il va décider de prendre son destin en main d'une façon très étrange et poétique, puisqu'il va décider de sortir dans la rue pour chercher cet enfant, dire aux voisins, aux gens qu'il croise, qu'il cherche un enfant qui n'a pas de père. Et c'est ainsi que cette histoire commence, et qui est une sorte de grande fable dans laquelle on va voir surgir des personnages qui sont tous des sortes d'éclopés, qui sont pris dans la tragédie de leur propre histoire. Comme dit l'auteur, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont en train de tomber. Et qui vont avoir des réponses qui sont faites à la fois d'innocence, de détermination et de poésie tout le temps. En tous les cas, c'est un livre qui nous parle énormément de la force du désir. Et ils vont se rencontrer et les uns les autres, même si Walter Hugo Maille nous les présente d'abord séparément, on voit comment les uns les autres vont devenir le fils de l'un, la femme de l'autre, et comment ils vont devenir désheureux.
Alors, il s'appelle Chrysostomo, hein, c'est ça,
voilà,
ce pêcheur,
c'est
la bouche d'or.
Oui.
Voilà, pour un personnage de roman, c'est formidable. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette famille qu'on s'invente de laisser pour compte, au fond, hein, qui,
oui. Oui, Chrysostomo est appelé l'homme qui n'était qu'une moitié. Camillo, son fils, est appelé le fils de 15 hommes. Isaura, sa femme, est appelée la femme qui rapetissait. Ce qui me plaît énormément, c'est la force poétique de cette histoire, c'est la fraîcheur de ces personnages, c'est la façon dont les vies s'inventent et se libèrent des apparentes déterminations sociales et autres. C'est la façon dont Walter Hugo Maille nous dit, en quelque sorte, comme le personnage le fait au tout début, l'urgence d'accéder à la lucidité de nos destins, précisément pour se laisser aller au désir dès que ça a été posé.
Merci beaucoup, hein, Christine Drugemand, pour ce conseil. Donc, je rappelle les références. Le fils de mille hommes, c'est publié chez Métellier, donc c'est signé Walter Hugo Maille. C'est quelqu'un qui a reçu le prix Saramago, hein, d'ailleurs, pour son premier roman.
Oui, c'est son deuxième livre traduit en France. Et effectivement, vous aviez bien fait de citer la traductrice Daniel Schramm parce
voilà.
Que la qualité de l'œuvre vaut beaucoup par la qualité de sa traduction.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Je rappelle que vous nous venez de La Belle Aventure. Hein, c'est à
oui.
Votre librairie, à joli nom, à Poitiers, 12-15 rue des Grandes Écoles. J'invite donc les auditeurs à s'y précipiter, d'autant que vous recevez quelqu'un qu'on aime beaucoup ce mercredi.
Absolument, nous recevons Eric Villard pour son dernier roman de la rentrée 14 juillet. Voilà, c'est à 18h30 à La Belle Aventure.
Eh bien, merci Christine Drugemand et à très bientôt. Je voulais vous dire un mot du concours Radio France de la micro-nouvelle qui est ouvert jusqu'au 16 octobre 2016 sur le thème de la liberté. C'est un concours ouvert à tous. Il s'agit d'envoyer à Radio France un récit imaginaire rédigé en 1000 signes espaces compris qui sera soumis à l'appréciation d'un jury. Les lauréats seront connus le lundi 7 novembre. Ils auront seront des prix. Les prix, ce sont des livres, beaucoup de livres primés en 2016 qui leur seront remis lors de Radio France Faites le Livre, qui est parrainé cette année par Tahar Ben Jelloun. Tous les renseignements sont à prendre sur le site radiofrance.fr. C'était le temps des écrivains avec Avril Ventura, Clémence Moulard, à la réalisation Anne-Laure Chanel, Claire Levasseur et Philippe Palares à la technique. Vous savez que vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr cette émission new-yorkaise avec Ben Lerner et Joyce Ménard.